Paris, vous êtes avec Anne Souhaitemont pour le débat du jour.
Le débat du jour. Anne Souhaitemont.
Bonsoir, bienvenue dans le débat du jour. La situation à Calais a encore fait la une ce week-end avec la tenue, malgré son interdiction, d'un rassemblement hostile aux migrants. Énième signe, s'il en fallait encore un, d'une situation intenable pour les habitants de Calais, mais aussi surtout pour les milliers de migrants, de réfugiés qui vivent dans des conditions inhumaines. Ils sont entre 4000 et 7000, difficile d'avoir un chiffre exact et fiable, répartis en divers endroits. Il y a un centre d'accueil provisoire qui à terme accueillera dans 125 containers 1500 personnes, un centre d'accueil de nuit où dorment des femmes, des enfants, et puis le fameux camp de la Lande, la jungle, où vivent, survivent plusieurs milliers de réfugiés. Trois sites qui sont appelés à se vider, c'est en tout cas le souhait de l'État qui propose à ceux qui le souhaitent de renoncer à l'Angleterre, de déposer une demande d'asile en France. Mais comment croire qu'en fournissant une solution à ces milliers de réfugiés, le problème sera réglé ? Comment croire que d'autres n'arriveront pas lorsque l'on sait que l'Europe s'attend à accueillir 1 million de réfugiés en 2016. Démanteler Calais n'est-il pas une illusion? Ne vaudrait-il mieux pas assumer un vrai camp de réfugiés sur le sol français? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. François Sivignon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin et une toute nouvelle présidente de Médecins du Monde. Didier Lesky, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Alors, avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute celle d'Ibrahim. Il est syrien, arrivé mi-octobre à Calais. Il vit dans la fameuse jungle que je mentionnais tout à l'heure. Son objectif, c'est d'atteindre l'Angleterre pour rejoindre une partie de sa famille. Et le témoignage est recueilli par Alice Posicki.
En Syrie, nous étions en train de mourir. Mais même pendant la guerre, nous ne vivions pas comme ici, dans la jungle. Nous sommes au cœur de l'Europe, nous sommes en 2016 et nous vivons dans une jungle. Ici, on souffre et on meurt à petit feu. Les Syriens qui vivent ici disent qu'il n'y a pas de différence entre le gouvernement français, le gouvernement britannique et le régime syrien. Ils sont tous responsables de notre souffrance.
Voilà, pas de différence entre le régime syrien, le gouvernement britannique et le gouvernement français. L'accusation est rude. Didier Lesky, est-ce que l'État français a failli à Calais?
Non. L'État français aujourd'hui organise à partir de Calais des départs sans condition dans des centres d'accueil et d'orientation. Et je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la question de Calais de la question générale de l'accueil. Nous avons une obligation d'accueil, c'est très clair. Mais tous ceux qui restent à Calais ne favorisent que ceux qui font la traite des êtres humains. Et c'est ça qui aujourd'hui est absolument difficile à Calais. C'est pourquoi nous incitons sans condition les gens à partir de Calais, à accepter les orientations en centre d'accueil et à déposer en France une demande d'asile pour commencer à rentrer dans un parcours légal. Et j'ajoute même que une fois qu'ils auront obtenu le statut de réfugié, la question du passage des frontières et du travail se pose de manière totalement différente. C'est une illusion de rester à Calais parce qu'il n'y aura pas une frontière ouverte avec l'Angleterre à Calais et ne profite dans cette affaire que ceux qui font monter les prix à partir du moment où la frontière est fermée. Et donc, ce sont les plus démunis qui sont dans la situation la plus difficile à Calais.
Alors, vous avez déjà dit beaucoup de choses. Je voudrais d'abord poser la même question à François Sivignon. On l'a entendu, Ibrahim est sévère à l'encontre de l'État français, de l'État britannique aussi, évidemment. Est-ce que vous considérez que l'État assure sa mission à Calais aujourd'hui ?
L'État a failli à Calais. Oui, l'État a failli à Calais. On voit depuis quelques années se développer ces camps indignes avec des populations qui font face à une violence de plus en plus grande. Et les événements de ces derniers jours en attestent. Donc c'est Calais, puis c'est Grande-Synthe, puis c'est Saint-Omer. Donc l'installation même et la croissance de ces camps fait que l'État a failli. Oui, on a laissé grandir et croître ces camps sur le territoire français avec une réponse qui est lente, qui est tout à fait inadaptée. Je veux dire, l'État a effectivement un accueil, un devoir, une responsabilité d'accueillir ces personnes et de les protéger. Et On n'y est pas. On n'y est pas, notamment pour les plus jeunes. Hein. Il y a eu Médecins du Monde a déposé un référé liberté à l'encontre de l'État concernant les mineurs isolés. C'est un des problèmes qui se posent sur ces territoires, mais pas le seul. Il y a une violence à l'encontre des migrants qui s'exacerbe. On a eu des épisodes absolument dramatiques. Et le témoignage de ce Syrien qui compare en fait sa situation en Syrie à celle de la France, c'est tout à fait indigne. Enfin, et ce témoignage reflète exactement la réalité.
Didier Leski, je voudrais réagir à ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Donc, je vous demandais, l'État a-t-il failli ? Vous nous dites non, car des procédures sont mises en place. Alain Juppé, il y a quelques jours, est allé à Calais. Il l'a admis. Il a dit, c'est pire que ce à quoi je m'attendais. C'est une situation inacceptable. Est-ce que l'État n'a quand même pas failli dans la manière dont vivent aujourd'hui ceux qui n'ont pas encore accepté les procédures que vous leur proposez ?
Écoutez, c'est un problème politique. Moi, je suis fonctionnaire. Mais sur le plan politique, je suis quand même très surpris par la réaction d'Alain Juppé, puisque tout ça résulte d'accords du Touquet qui ont, d'une certaine manière, bloqué les gens à Calais en leur suscitant un espoir que, malgré tout, ils pourraient passer.
Alors attendez, juste les accords du Touquet, pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi on parle. Ce sont des accords qui ont été signés en 2003, après la fermeture du fameux centre de Sangatte, donc une décision qui avait été prise alors par Nicolas Sarkozy, et qui a en quelque sorte déplacé la frontière, grosso modo en France, en la déplaçant en France. Voilà, donc on la passe là, donc ça a tout changé. Donc vous dites, c'est aussi la faute de la droite à ce moment-là, donc Alain Juppé n'est pas cohérent.
Si vous voulez, l'État comme ça, c'est pas une immanence qui a la même position sur la continuité. Voilà, je pense que peut-être que ceux qui ont signé les accords à ce moment-là n'ont pas mesuré à quel point ils organisaient une impasse qui ne pouvait profiter qu'aux passeurs. Hein. Et aujourd'hui, si vous me posez la question de ce que fait l'État, c'est-à-dire de ce que fait le gouvernement français depuis maintenant un certain nombre de mois et d'années, eh bien je vous dis, il organise sans condition l'accueil des personnes loin de Calais, parce que rester à Calais, c'est alimenter une chaîne de traite des êtres humains, et c'est ça qui est scandaleux. Voilà, maintenant... que la situation des personnes soit difficile à Calais, oui. Qu'elle soit comparable à la Syrie, je ne crois pas. Hein, il y a près de 2000 repas qui sont distribués gratuitement tous les jours. Des douches ont été mises en place, des sanitaires. Des personnes sont maintenant hébergées dans des locaux plus ou moins adaptés. Des femmes sont mises à l'abri. Donc il y a un redressement de la situation. Et il y a 4000 personnes qui ont quitté Calais et même Grande-Synthe depuis le mois d'octobre.
Alors on va y venir à justement ces demandes que vous leur proposez. Vous vouliez réagir, François Sivignon.
Oui, je pense qu'on ne peut pas mettre de côté la mauvaise gestion, la mauvaise organisation de ces flux migratoires. Alors certes, depuis quelques années, donc on est dans un aboutissement de mauvaise gestion et mauvaise organisation, pas d'anticipation en fait de ces personnes qui arrivent sur les territoires français et qui vont continuer à arriver.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'a pas voulu voir ce qui était en train de se passer. On a mal anticipé.
C'est certain qu'il y a un défaut d'anticipation et que le Royaume-Uni a externalisé ses politiques migratoires pour laisser aux Français le soin de s'occuper de ces personnes. Donc ce n'est pas une non-politique qui date d'hier, effectivement. Après, sur les conditions sanitaires et de violence, on est quand même dans une phase, on est dans une escalade à la fois de violence et verbale. Enfin, je veux dire, vis-à-vis de ces personnes, les déclarations d'un élu belge qui mentionnait qu'il ne fallait plus nourrir ces personnes. Je veux dire, de quoi parle-t-on ? Enfin, on les assimile à des animaux. Je trouve qu'on est dans une escalade verbale et de violence qui n'est pas admissible et qui, là aussi, on devrait se poser la question de légiférer autour de ces propos. Franchement, c'est tout à fait indigne.
Alors, enfin, revenons
peut-être... C'est pas la position de l'État français et il est justement belge, c'est-à-dire que ce n'est pas un élu de la France. Voilà. En ce qui concerne la politique actuellement, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, c'est d'organiser l'accueil dans des centres adaptés où les gens sont mis à l'abri. Hein, et c'est sur place essayer d'améliorer autant que faire se peut les conditions de vie sur place, sachant que l'enjeu, c'est d'arrêter que les personnes aient l'illusion de rester dans une impasse boueuse au seul profit de ceux qui font monter les prix pour en faire passer quelques-uns en Angleterre.
Alors, François Sivignon, je voudrais quand même vous reposer la question du départ. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour remédier à cette situation ? Et là-dessus, vous êtes d'accord, une situation qui est intenable. Est-ce qu'on doit assumer en France de créer un camp de réfugiés organisé ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?
La solution n'est certainement pas un camp de réfugiés organisé. Les camps de réfugiés organisés, ils s'organisent, ils se chronicisent, comme ça peut être dans des pays comme la Jordanie, comme le Kenya, ce grand camp qui s'appelle Dadaab, exactement.
Ou le camp de Zaatari à la frontière syrienne.
On fixe les personnes, on les chronicise sans emploi. Donc ça, certainement pas, c'est certainement pas une solution. La solution, elle est dans ce qui a été proposé initialement par l'Allemagne et un petit peu la France, donc d'un plan ambitieux de relocalisation de ces personnes. Sur les 160 000 personnes qui devaient être relocalisées sur le territoire européen, seuls 400, je crois, ont effectivement bénéficié de cette relocalisation. Donc,
alors, ça veut dire quoi, relocalisation ? Pour être concret, pour que les auditeurs comprennent bien, ça veut dire quoi un plan de relocalisation ?
Un plan de relocalisation, c'est des personnes qui souhaitent s'installer dans le pays de leur choix et qui, effectivement, sont accueillies et protégées dans le pays qu'ils ont choisi d'investir. Ils ont choisi de terminer de leur parcours migratoire dans ce pays précisément, qui est souvent le lieu où une partie de leur famille vit.
Alors Didier Lesky, la France propose des solutions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qu'essaie de faire aujourd'hui l'État français ? En gros, c'est dire aux personnes qui sont à Calais, n'espérez plus passer en Angleterre, faites une demande d'asile en France et s'enclenche un processus, c'est ça ?
Tout à fait, c'est absolument ça. Et du reste, avec ou sans relocalisation, les personnes sont ici. Donc la question, c'est pas de savoir si on va les mettre dans des camps. Il faut effectivement pas raisonner de cette manière-là. Mais qu'on mette en place des structures d'accueil plus importantes, loin de la frontière, ou loin de Calais, et que dans ces structures d'accueil, on réfléchisse sur des cours de français, sur de la formation, sur un début de parcours d'insertion en France. Ça, je pense que c'est utile. Voilà. Et c'est pas simplement la question des relocalisés. C'est la question de ceux qui sont ici, et en particulier ceux qui sont à Calais. Le seul message qu'il faut passer aux gens qui sont à Calais, avec les associations, avec tous ceux qui interviennent, c'est ne restez pas à Calais. Venez dans les structures qu'on vous propose pour justement commencer à apprendre le français, parfois à commencer une formation, commencer une insertion en France. L'avenir est en France.
Comment résoudre la crise à Calais ? C'est le débat de ce soir avec nos deux invités, Didier Lesky, que vous venez tout juste d'entendre, et François Sivignon. Vous vouliez réagir à ce que vient de nous dire Didier Lesky ?
Non, simplement pour rementionner la lenteur de la réponse. En fait, la France ne fait pas face à sa première vague, entre guillemets, migratoire. Il y a eu d'autres personnes qui sont venues sur le territoire français, y trouver protection, refuge. Nous, ce qu'on pointe, c'est la lenteur de la réaction.
Mais est-ce que vous êtes en train de dire
la lenteur de la réaction et ces conditions indignes d'accueil.
Et les procédures qui sont actuellement proposées et qui viennent de nous être expliquées par Didier Lesky, elles vous semblent bonnes ? Des moyens insuffisants ? Quel regard vous portez sur ce que fait l'État français ou devrait faire théoriquement l'État français ?
On voit bien que les camps ne font que grossir, donc la réponse n'est pas adaptée aux besoins quelque part. Parce que on parle de, vous mentionnez 4500, 5000 personnes maintenant à Calais. Grande-Synthe, c'est à peu près 2500 personnes. Donc on n'est quand même pas sur des chiffres, monstrueux.
Le camp continuera à grossir tant que tout le monde n'expliquera pas aux gens que ça ne sert à rien de se maintenir à Grande-Synthe. Les départs de Grande-Synthe et de Calais sont proposés à toutes les personnes qui sont là, sans condition. Voilà. L'OFI met à disposition deux fois par semaine, entre deux et trois quarts, de carpes, et les gens peuvent monter comme ils veulent. Voilà. Je suis au regret de constater que malheureusement, ils ne sont pas remplis.
Mais alors, excusez-moi, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce que vous dites, essayer de changer les discours, les mentalités aussi de ces réfugiés qui viennent et qui veulent passer en Angleterre, en leur disant, il faut que vous déposiez votre demande d'asile en France, installez-vous ici, c'est ce que vous nous dites, et la construction de ce troisième camp dont j'ai parlé au tout début, avec ces containers. Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction dans le discours de l'État français ?
Non, parce que le conteneur est un conteneur d'urgence. Enfin, ces conteneurs sont donc pour l'urgence et pour 1500 personnes. Il y a plus de 1500 personnes à Calais et à Grande-Synthe. Et donc, l'enjeu, c'est de faire en sorte que tout le monde soit mis à l'abri. Mais ça ne peut pas être à Calais, parce que tant que vous les fixez à Calais, deux choses ne se passeront pas. La première, c'est qu'ils ne rentreront pas dans un parcours d'intégration, c'est-à-dire ils n'apprendront pas le français et ils n'accepteront pas les propositions de formation parce qu'ils seront toujours à la merci du discours des passeurs qui leur diront « bah oui, donnez-nous de l'argent et un jour nous vous ferons passer à Calais ». Et donc c'est ça qu'il faut arrêter parce que cette dynamique-là, elle ne profite qu'à ceux qui sont les crapules qui organisent tout ça. Voilà. Et donc, il faut accepter de monter dans l'écart, il faut accepter d'aller dans les centres d'accueil et d'orientation, et il faut accepter de rentrer dans un parcours d'intégration légale en France en faisant une demande d'asile en France.
François Sivignon, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, ce changement des mentalités, ce changement de discours?
Nous, on informe les personnes qui fréquentent nos centres, fixes ou les maraudes, en fait. On va vers les personnes les plus précaires, à Calais, à Grande-Synthe, sur leurs droits, sur le territoire français, bien évidemment. Ça, on le fait de toute façon sur tous nos centres d'accueil qui accueillent des personnes migrantes, d'ailleurs, depuis plus de 20 ans. Après, il faudrait analyser, mais là, je ne suis pas dans la position de monsieur, pourquoi les personnes ne veulent pas s'installer en France.
C'est précisément ce que j'allais vous demander. Il y a un problème d'attractivité de la France et en même temps, ce que vous nous dites là semble un peu aux antipodes des discours politiques qu'on entend en ce moment. On n'est pas franchement dans « accueillons tous les réfugiés qui arrivent en France ».
Je pense qu'il manque de la part de nos décideurs politiques, de nos gouvernants, un discours d'accueil précisément, un discours chaleureux, un discours bienveillant. On l'a pas beaucoup entendu depuis le début.
Aujourd'hui,
on est quand même dans une stigmatisation, dans le mauvais côté des migrants. Et nous, enfin, c'est un discours qu'on a qui est récurrent de dire que des personnes qui migrent, ce sont des personnes qui peuvent participer au futur culturel, économique, humain, tout simplement, de notre pays. Et ça, on l'a très peu entendu.
Il y a l'attractivité économique aussi. On sait que la France traverse quand même une crise qui est aiguë. Il y a le chômage.
Mais qui est la nécessité d'une bataille politique qui concerne tout le monde, qui concerne les journalistes, les associations, les partis politiques, les syndicats, pour organiser un meilleur accueil? C'est indéniable. Voilà, ce n'est pas simplement du ressort de l'État, parce que les questions de l'idéologie qui traverse la société française, elle ne peut pas simplement être résolue par la simple mobilisation des fonctionnaires, aussi républicains soient-ils.
Alors, voilà.
Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut effectivement réfléchir à comment on met mieux à l'abri ceux qui sont déjà là, avant de parler de l'accueil des autres. Et ceux qui sont déjà là, le seul moyen de résoudre cette question, c'est un, de les éloigner de Calais, deux, de mettre en place des structures d'accueil massives.
Mais est-ce qu'on a le temps de réfléchir alors que, je le disais, on attend, l'Europe s'attend à 1 million de réfugiés qui arriveraient en 2016, qu'on a encore des déclarations turques ce soir qui parlent de 600 000 potentiels Syriens.
C'est en marchant qu'on apprend à marcher. Voilà. Oui. Et c'est là le sujet. Et si on ne veut pas être demain submergé par des réactions, je dirais, incontrôlables au sein de la société française, eh bien, il faut commencer à mettre en place ces structures parce que demain, la situation peut être effectivement beaucoup plus difficile et que la question n'est pas simplement notre générosité vis-à-vis des migrants qui est nécessaire. La question aussi, c'est de savoir comment on articule tout ça avec l'ensemble de la société française et c'est le plus gros du travail.
François Sivignon,
c'est certainement un gros travail à faire de pédagogie vis-à-vis de l'opinion publique, donc probablement faire changer de façon permanente, je dirais, remettre le cœur à l'ouvrage, l'image que l'opinion publique et les personnes ont de ces migrants. Et ensuite, il faut que ça soit adossé et en même temps qu'un plan européen ambitieux, évidemment, je veux dire. Et là, on est dans l'anticipation, enfin, on est même dans la réalité plus que l'anticipation. C'est-à-dire qu'on attend de nos gouvernants de mettre en place un mécanisme de relocalisation, un mécanisme selon le desiderata des personnes et selon les capacités d'accueil des pays.
Alors, plusieurs voix s'élèvent pour demander la venue de François Hollande. Ce serait évidemment symbolique. Est-ce que vous pensez que ça changerait quelque chose s'il venait, François Sivignon?
Est-ce que ça changerait quelque chose
dans le marketing?
Je pense que voir la réalité de ce qu'est la junte de Calais, ça bouscule les esprits, enfin, et ça bouscule les consciences, oui. Donc clairement, pourquoi pas? Moi, je pense que de la réalité sous les yeux des dirigeants est importante, oui.
Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à nos deux invités, François Sivignon, qui est donc médecin, présidente de Médecins du Monde, et puis Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFI. Merci à Florence Ponce, à Hélène Avril pour la réalisation et la préparation de cette émission. On se retrouve demain pour un débat sur la nécessité ou non des primaires autant aux États-Unis qu'en France. En attendant, c'est le journal En France est facile. Bonne soirée sur RFI.